Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, nous préparons la fête de Noël et il est très important que nous nous rendions compte de l'importance capitale de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans nos vies personnelles, mais dans toute la vie publique. Nous avons des ouvriers qui travaillent chez nous sur les travaux de la chapelle. Et bien entendu, nous avons mis la conversation sur le terrain de la foi. Nous parlions des gilets jaunes. Et j'essayais de faire comprendre à l'un de ces ouvriers bien disposés que tant qu'on ne reviendrait pas à Jésus-Christ, on pourrait toujours chercher des solutions, on serait comme un oiseau qui se cogne contre une vitre. Il n'était pas du tout convaincu, il ne voyait pas, comme nous le voyons, nous, l'importance de Dieu. Alors je lui ai fait une petite rétrospective, et comme elle a eu l'heure de convaincre et de plaire, les frères m'ont demandé de redire cela en sermon. Je crois qu'effectivement, ces choses qui pour nous sont évidentes doivent être répétées très souvent parce que nous sommes dans un monde laïcisé et sans nous en rendre compte, nous réagissons de façon beaucoup trop laïque, c'est-à-dire sans Dieu. Et j'ai commencé par dire à ce brave homme, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous ne voyez pas l'importance de Dieu et de revenir à Dieu, mais est-ce que vous pouvez nier que lorsque Dieu créa, il créa dans sa sagesse divine? Évidemment, cela lui paraissait évident. La création, c'est pas faite n'importe comment, c'est pas le tout de dire qu'elle est un don de Dieu. C'est pas tout de dire que Dieu a créé. C'est pas le tout de dire que Dieu a rendu les hommes heureux. Il faut voir dans quelle sagesse il les a mis. Si l'homme suit la sagesse de Dieu, toutes les choses vont bien. S'il ne la suit pas, toutes les choses vont mal. Regardez par exemple la famille, qui est une pure merveille. Dieu aurait pu créer les hommes de toute autre manière. Il a voulu que les enfants soient petits, qu'ils aient un père, une mère. Regardez ces choses très simples. Des petits enfants qui font 1 mètre de haut face à des adultes qui font 1 mètre 80. Rien que cela rappelle aux enfants qu'ils ne sont pas les maîtres, que les adultes sont plus grands, sont plus forts, sont plus sages, etc. Je dis, on peut toujours imaginer un autre type de famille, comme on a prétendu nous l'enseigner quand j'ai commencé mes études de droit en première année, qu'il y avait d'autres types de familles qui étaient tout aussi légitimes que la famille que nous connaissions. J'y on peut toujours imaginer, mais vous savez bien que c'est faux. On voit bien que dès qu'on démolit la famille, l'homme tombe pas seulement dans le vice, mais également dans la tristesse, dans l'abattement, dans toutes les difficultés. Et Dieu a créé l'homme dans cette sagesse, il lui a communiqué cette sagesse, et l'homme s'est comporté comme un véritable adolescent. Il a dit à Dieu, maintenant que vous m'avez tout dit, Dieu, j'ai plus besoin que vous me surveilliez comme si j'étais un gamin. Dieu était conscient de ce que l'homme a besoin, qu'on lui rappelle les choses. Il avait mis au paradis terrestre l'arbre de la science du bien et du mal, qui était un rappel, tout simple, comme font les pères de famille. Voilà, tu es le maître du paradis, mais tu dois m'obéir. C'est moi le maître de toutes choses. Alors tant que tu m'obéiras, tout ira bien. Quand tu me désobéiras, tout ira mal. Et pour bien te rappeler que tu dois m'obéir, tu vois cet arbre, eh bien, tu n'y toucheras pas. Si jamais tu y touches, alors, science du bien et du mal, pour l'instant tu ne connais que le bien, eh bien, tu verras ce que c'est que le mal. Adam et Ève, je vous le disais, sont comportés comme des gamins révoltés. Tu es une révolte. Ils ont cru qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu pour mener leur vie. Et ils ont provoqué Dieu en mangeant ce fruit. C'est pas de la gourmandise, hein. C'est de l'orgueil. Et dans l'orgueil, ça ne peut être que l'orgueil radical, c'est-à-dire la provocation de Dieu. Dès qu'ils ont eu provoqué Dieu, évidemment, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, et qu'ils avaient des soucis, qu'ils avaient des problèmes. Peu de temps après, Caïn tuera Abel. Dieu a quand même eu pitié. Et c'est ça que je rappelais à notre ouvrier qui était à table, pour bien lui montrer que lorsque l'homme quitte Dieu, tout va mal. Mais Dieu propose toujours le pardon. Seulement, le pardon, ça suppose de revenir à Dieu. Donc Dieu a eu pitié des hommes. Parce que l'homme est faible, il n'est pas comme l'ange, qui est déterminé dans le bien comme dans le mal. Adam et Ève ont demandé pardon, et Dieu leur a promis un rédempteur. La première promesse au moment du péché, je mettrai une inimitié, dit-il au démon, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et sa descendance, tu la mordras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Et les pères de l'Église nous disent qu'il s'agit de la Sainte Vierge et de Jésus-Christ. Il y a dans la tradition l'interprétation de l'Écriture sainte qui ne se suffit pas à elle-même. Et donc nous savons, et Adam et Ève l'ont très bien compris, et tous les peuples anciens l'ont très bien compris, Dieu promet un rédempteur. Et à ce moment-là, l'humanité se divise en deux. Il y a ceux qui sont reconnaissants envers Dieu du pardon qu'il leur donne, et ceux qui redoublent de fureur contre Dieu parce qu'ils s'étaient révoltés, et voici que Dieu cherche à les ramener à la soumission. Alors ils ont décidé d'être révoltés et ils vont se murer dans leur révolte. Ils vont nourrir leur révolte. Ils en veulent à Dieu de leur proposer de cesser leur révolte. Mais c'est infernal. Alors je vous passe surtout toute l'histoire dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament vivait de la promesse de Dieu, de la promesse de la croix, de la promesse du Rédempteur. Ils attendaient le Rédempteur, ils attendaient le Messie. Seulement, ils ne l'avaient pas encore. Donc cette foi était puissante, mais elle n'était pas aussi puissante que lorsque notre Seigneur sera venu sur terre et qu'il sera mort sur la croix. Et voilà pourquoi une grande partie de l'humanité a quitté Dieu. Il a fait le déluge, c'est l'histoire de la tour de Babel et tout cela. Mais malgré tout, une petite partie resta fidèle, et Dieu, pour diverses raisons et renforcer la fidélité, concentra dans le peuple élu, le peuple d'Israël, le peuple juif. Mais là encore, il y eut une partie des juifs qui était fidèle à Dieu, humblement, cela donnera la Sainte Vierge, les apôtres, Saint Joseph, l'aveugle-né, etc. Et vous avez une partie des juifs qui ne se sont ralliés à Dieu parce qu'ils ont cru que Dieu avait enfin cédé à leurs caprices et que Dieu allait leur donner la puissance sur le monde, cette puissance qu'ils cherchaient depuis le début. Ils ont cru que Dieu était assez bonasse pour ne plus maintenir ses exigences et leur donner la domination sur le monde. Quand ils découvrent la réalité, alors ils redoublent de haine. Ils découvrent que Dieu est tellement bon qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre d'abord pour mourir sur la croix. Ils découvrent que le règne de Jésus-Christ va être un règne d'humilité, un règne d'amour de Dieu le Père, un règne de vertu. Et ils découvrent que Dieu est tellement puissant que d'hommes criminels, il peut les retourner et en faire des hommes vertueux. Attention, hein, le pardon, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, nous n'avons pas le pardon des protestants. C'est pas un manteau de Noé qui couvre la nullité. La puissance de Dieu n'est pas de faire comme si l'homme n'avait pas péché, elle est de transformer un pécheur, d'en faire un ami de Dieu, mais un ami profond. On le voit bien dans les conversions, surtout les conversions spectaculaires. Alors là, les ennemis de Dieu vont redoubler de haine. Redoubler de haine, ils en veulent à Dieu d'être si bon, de les empêcher de continuer dans leur révolte et dans leur malice. Et pendant toute l'histoire de la chrétienté, ils vont tout faire pour se venger de Dieu. Et comme ils ne peuvent pas atteindre Dieu en lui-même, parce qu'il est inaccessible, alors ils vont se venger sur les œuvres de Dieu. Comme quelqu'un qui ne peut pas toucher un homme se venge sur ses enfants. Ils vont se venger sur l'homme, ils vont se venger sur les hommes, ils vont chercher à faire tomber les hommes pour dire à Dieu, tu vois, ton salut ne vaut rien. Ils vont essayer d'abord par les grandes hérésies, les persécutions au début, puis les grandes hérésies. Les grandes hérésies dans lesquelles ils vont dire hein, « Ton Dieu n'est pas Dieu, cet homme-là n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu, ça ne marche pas. Cet homme-là n'est qu'un Dieu, il n'est pas homme. » Ce qui est très grave, parce que si Dieu ne s'est pas fait homme, alors la croix n'est rien, l'incarnation n'est rien, et le salut n'existe pas. Heureusement, l'Église a résisté parce que elle avait la force de la foi. Et quand on dit la force de la foi, c'est pas le fait de croire, c'est ce à quoi on croit. Elle avait la force de Dieu auquel elle croyait, la force de la croix auquel elle croyait, la force des sacrements auquel elle croyait. C'est les sacrements, c'est Dieu, c'est la croix qui donne la force. La foi permet d'entrer dans cette force. Les ennemis de Dieu vont essayer autre chose. Au Moyen-Âge, ça sera la grande question de la vérité. Que savons-nous? Comment pouvons-nous connaître? Heureusement, saint Thomas d'Aquin a été suscité par Dieu, et de façon très lumineuse, il a montré aux hommes, mais bien sûr que nous connaissons les choses, bien sûr que nous avons des certitudes, c'est une évidence, regardez. Les ennemis de Dieu en ont été encore pour leurs frais. Ils vont essayer, à partir de l'humanisme, la Renaissance, l'humanisme dit bien son nom d'ailleurs, de faire tomber les hommes, cette fois-ci par la sensualité. C'est ainsi qu'on arrive à Michel-Ange peignant le plafond et les fresques de la chapelle Sixtine, et qui sont couvertes de nudité. Et là, on voit malheureusement des papes, des cardinaux, des évêques, des grands de l'Église. Il y en avait des très saints, mais en même temps, ils se sont habitués. Bon, écoutez, Seigneur, ça c'est de l'art. Alors vous ne pouvez rien dire, c'est pas de la morale. Pour tout le reste, nous vous sommes soumis, mais l'art a quand même sa liberté, il a ses lois. On n'est plus dans la sagesse de Dieu. Et alors, au lieu que l'art mène à Dieu, l'art prend son indépendance. On ne se rend pas compte à quel point Michel-Ange, avec ses pinceaux, a fait une révolution. On arrive à la révolution protestante. Et là, pour prendre l'exemple de la France, qui est le plus caractéristique, la France est coupée en deux. D'un côté, les bons chrétiens qui travaillent ce qu'il faut pour gagner leur ciel, pour nourrir leur famille. Et puis de l'autre côté, les protestants qui non seulement veulent gagner de l'argent, mais qui rendent l'homme esclave du travail pour gagner de l'argent. Alors que dans la chrétienté, l'argent est l'esclave des hommes. Dans le protestantisme, ce sont les hommes qui sont esclaves de l'argent. Et l'homme devient malheureux. C'est là qu'on voit apparaître le prolétariat. C'est là qu'on voit apparaître, c'est des petites usines. Mais enfin, le principe est là. Ce n'est plus un travail dont l'homme a de la fierté, c'est un travail en usine, même si ces usines sont petites. Et les usines sont nées dans les pays protestants. Et puis, j'ai pas besoin de faire le dessin sur tout le reste. Donc, mon homme écoutait tout cela. Et je dis, l'homme devient de plus en plus malheureux. Alors on lui propose de faire la révolution, et il se rend bien compte que la guillotine ne l'a pas rendu heureux. Et à la fin de la révolution, alors on revient à Dieu. Mais là, il se produit un autre drame, à savoir que les chrétiens reviennent à Dieu, ils disent à Dieu, oui, nous avons eu tort, nous revenons à vous, mais s'il vous plaît, laissez-nous faire un accord avec nos ennemis, parce que sinon ils vont nous écraser. Manière de dire, que Dieu n'est pas assez puissant pour nous protéger de nos ennemis, qu'il va falloir faire un accord parce que Dieu n'est pas assez puissant, alors qu'au contraire, Dieu aime les situations désespérées pour montrer sa puissance, pour montrer sa bonté, pour montrer qu'il ne nous abandonne pas. Alors c'est tout le libéralisme. On continue à croire en Dieu, mais on n'a pas confiance dans la puissance de Dieu et on n'a pas confiance dans les moyens que Dieu donne. Et c'est comme ça qu'on arrive au concile. Le concile est le fruit de cela. Les prêtres avaient la foi en Dieu, ils n'avaient plus la foi dans les moyens de sanctification que Dieu donne. Ils ont dit, il faut imaginer autre chose. On en arrive aux gilets jaunes, qui sont des gens perdus, de braves gens perdus. Bien sûr, ils ont peur surtout pour leur fin de mois. Mais s'ils ont peur pour la fin de mois, c'est qu'ils ont peur de ne pas pouvoir nourrir la famille et ils ont peur de ne pas arriver à vivre. Et alors ils sortent dans la rue, désemparés. Je sais bien qu'ils sont récupérés. Je ne parle pas de tous ceux qui les récupèrent. Et je disais à notre brave homme qui était à table avec nous, j'ai dit, tant que nous ne sortirons pas du problème en nous tournant vers Dieu, nous resterons dans le problème. Et c'est parce qu'il avait du mal à comprendre ça que je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer. Alors les hommes se rendent bien compte qu'il doit y avoir une sortie à tous ces problèmes, que c'est pas possible, que les gouvernants les volent, qu'on leur vole leur paternité, qu'on leur vole leur famille, qu'on leur vole leur femme. Tout est fait pour pousser les femmes à divorcer. 90%, je crois, des divorces sont demandés par les femmes. Ils se rendent bien compte qu'on leur vole leurs femmes, on leur vole leurs enfants, avec les lycées, avec tout cela, on leur vole leur famille, on leur vole leur argent, on leur vole leur fierté. Alors ils veulent sortir de ce problème, et ils ne voient pas l'issue, mais ils se doutent bien qu'il y en a une. Il y a eu une entrée, il y a eu une sortie. On n'a pas toujours été dans cet état-là, donc on doit pouvoir revenir à l'état d'avant. Seulement, la révolution les a tellement bien aveuglés qu'ils ne trouvent pas la sortie, elle les a complètement emberlificotés. Et alors c'est notre fonction, à nous, les catholiques, de leur rappeler que dans tous ces problèmes, on sort par en haut. Notre Seigneur est toujours au-dessus de nous, il est toujours là à nous offrir le salut pour peu que nous nous repentions, pour peu que nous admettions que nous avons eu tort et que nous revenions dans son amitié. Et donc, ce qu'il faut dire aux hommes d'aujourd'hui, c'est que le marasme est dû à l'abandon de Dieu. Et l'homme ne veut pas s'en rendre compte, mais s'il est dans le marasme, c'est parce qu'il a lui-même abandonné Dieu. Il s'est laissé faire. Il a cru qu'il n'y aurait pas de conséquences. On a abandonné Dieu, et puis il y a les conséquences. Alors on oublie que c'est parce qu'on a abandonné Dieu. Mais il y a un lien. Quand on était fidèle à Dieu, les époux étaient fidèles l'un à l'autre. Quand on cesse d'être fidèle à Dieu, pourquoi les époux seraient-ils fidèles l'un à l'autre? Quand le père n'obéit plus à Dieu, quand la mère est révoltée, pourquoi les enfants lui obéiraient-ils? Et il faut rappeler cela aux hommes. Quel que soit le désarroi de la situation, quelle que soit l'ampleur du drame, n'allons pas faire comme les libéraux du XIXe siècle. Seigneur, la situation est trop grave, laissez-nous faire un accord avec nos ennemis. Parce qu'en plus, ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux de Dieu. On ne peut pas faire un accord avec les ennemis de Dieu. Ne vous laissez pas avoir par cette propagande utilitariste qui voudrait vous faire croire que prêcher Dieu aujourd'hui n'est pas efficace. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, on tombera de mal en pis. Ça ira de mal en pis. Alors je voudrais que pour Noël, mes bien chers frères, vous renouveliez, premièrement pour vous, vous renouveliez votre foi dans l'unique Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Sauveur. Première chose. Deuxièmement, que vous renouveliez votre conviction que les seuls moyens efficaces sont ceux que Dieu nous donne et que les moyens humains, s'ils ne sont pas reçus de Dieu, non seulement sont inefficaces, mais ne font qu'augmenter le mal. Nous l'avons vu depuis la Révolution, le libéralisme par lequel l'homme a voulu se débrouiller seul face aux ennemis de Dieu et à ses ennemis, le libéralisme n'a fait que nous enfoncer de plus en plus dans le drame et dans les crimes. Premièrement, renouvelez votre conviction. Deuxièmement, renouvelez votre conviction que en dehors de Dieu, il n'y a pas de salut. Troisièmement, prêchez cela, dites-le. Dites-le aux gilets jaunes, dites-le à vos amis qui n'ont pas la foi, dites-le aux ouvriers que vous côtoyez comme nous le faisons. Quatrièmement, mettez-le en œuvre. Il faut que pour Noël, chacun d'entre nous fasse participer quelqu'un d'autre au salut apporté par Jésus-Christ. Je vous demande pas de leur donner la conviction, je vous demande de les mettre en contact avec Jésus-Christ. Nous avons écouté en communauté des conférences de Monsieur Neriek, qui, après s'être converti à sa religion d'origine, comme il le dit très plaisamment, il est revenu à la foi, s'est consacré à l'apostolat près des musulmans. Et contrairement à tout ce qu'on entend constamment, c'est un homme qui met les musulmans face à Dieu, face à la Sainte Trinité. Quand ils discutent avec eux, ils disent « la discussion que nous avons aujourd'hui est une discussion sous le regard de Dieu. Tu ne peux pas le nier. Nous parlons de Dieu, donc Dieu nous voit. » Et cette discussion est très importante pour toute l'éternité. C'est un moment d'éternité que nous avons ensemble. Si tu ne veux pas l'admettre, ça sera tant pis pour toi. Mais moi, je ne peux pas te le cacher. Et on s'aperçoit que cette prédication pleine de foi, pleine de Jésus-Christ, cet homme-là est toujours sur le regard de Dieu, il cherche toujours à prolonger l'action de Dieu, il se dit toujours « Dieu est venu pour sauver tous ces hommes, comment puis-je les libérer du péché pour qu'ils puissent recevoir le salut ?» Il ne se pose pas des questions sur les moyens humains à prendre. D'abord, il obtient des résultats extraordinaires, et puis surtout, c'est une bouffée d'oxygène, une bouffée de foi quand on entend un homme comme cela, qui au milieu du monde païen est plein de Dieu. Et naturellement, sans forfanterie, sans exagération, simplement, il est plein de Dieu, il parle de Dieu. Et il faut, mes bien chers frères, que pour Noël, nous, chacun d'entre nous, nous amenions à la crèche quelqu'un qui ne la connaît pas ou qui s'en est éloigné. Invitez chez vous pour la veillée de Noël. Invitez quelqu'un à participer à la veillée de Noël, les chants, quelques lectures avec vos enfants. Rien que cela marque, cela touche. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça touche d'avoir une famille qui prie. Si vous ne pouvez pas inviter chez vous, alors à ce moment-là, allez chez les gens, proposez quelque chose pour Noël, emmenez vos enfants. Faites ce que vous pouvez, le bon Dieu fait le reste. Le bon Dieu nous demande d'avoir la foi, il nous demande de nous attacher à la croix, il nous demande d'être comme Saint Jean et comme la Sainte Vierge. Il ne nous demande pas d'avoir le succès c'est lui qui le donnera. Il nous demande de prendre les moyens qu'il met dans nos mains, le reste il s'en occupe. Alors que ce Noël marque vraiment, mes bien chers frères, le début d'un nouvel état d'esprit dans nos familles. Un état d'esprit non pas conquérant, mais de fidélité à la croix de notre Seigneur, de fidélité surnaturelle. Notre Seigneur est venu sauver dans le monde, si nous y croyons, alors à ce moment-là, nous croyons que c'est cela qu'il faut faire et rien d'autre. Si nous ne croyons pas que c'est cela qu'il faut faire, c'est que nous ne croyons pas à l'incarnation. Demandez à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, non seulement guérit les blessures, non seulement elle apaise les peines, mais elle transforme tout et elle profite des peines pour faire sentir la bonté de son Fils. Vous irez aux malheureux, si vous parlez de la Sainte Vierge, elle leur fera sentir la bonté de son Fils qui veut les convertir. Sursum corna, mes bien chers frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.